On a bougé pendant la scène, on bougera à la fin du message. Je vous préviens, on va bouger ce matin. Voilà, c'est une coalition. Voilà, on a été gâtés déjà en ce début d'année 2018. On a, quelques jours avant le démarrage de l'année, on a eu cette parole par Robert, la joie de l'Éternel sera votre force. En Néhémie 8, hein. On a eu 8 jours plus tard, pour ceux qui ont des petites insomnies là, la promesse de nous coucher en paix. J'étais enthousiasmé par Thérèse qui, que j'ai vue dans la semaine, aussitôt après, qui a dit « Oh, ça marche, ouais, j'ai bien dormi pendant deux, trois nuits. Hein, » C'était une méditation du psaume 4. Ouais. Et 8 jours après, c'était dimanche dernier, on était encouragé par cette invitation à nous connecter avec Dieu, avec celui qui n'est pas, dont la ligne n'est pas surchargée, qui est là toujours à l'écoute 24 heures sur 24. On a eu une très belle soirée vendredi avec nos amis catholiques où on était encouragé à être débarrassé des chaînes qui nous asservissent et qui nous divisent aussi. Ces paroles ont ranimé notre espérance, n'est-ce pas? Pourquoi on vient chaque dimanche? Pour honorer le Seigneur, bien sûr, mais aussi pour entendre une parole qui ranime l'espérance. Mais dites à ceux qui ont du mal à se lever le dimanche matin, dites à ceux qui n'arrivent pas à venir le dimanche matin, viens, viens, viens. Dieu a une parole pour ranimer ton espérance. Si le chrétien n'a pas d'espérance ou n'a plus d'espérance, il perd sa raison d'être, d'apporter la lumière dans le monde. L'espérance fait partie intégrante de la foi. Vous connaissez cette définition de la foi, Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors ce matin, je voudrais que ça soit encore une parole pleine d'espérance. Et à travers un texte qui est un joyau de l'Écriture, et c'est 5 chapitres plus loin que le chapitre que Sylviane vient de lire, c'est dans Ésaïe 58. Ésaïe est le prophète de l'espérance messianique. Alors ce chapitre est vraiment un joyau de l'Écriture parce qu'il décrit tellement bien l'attente de Dieu par rapport au style de vie que doit mener son peuple. Mais il y a aussi des promesses magnifiques en 6 ou 7 versets. Certes, c'est des gros versets, mais il y a 15 promesses. En 6 ou 7 versets, il y a 15 promesses. Incroyable. Il y a plus de 10 ans, oh oui, il y a peut-être entre 10, 12 ans, peut-être pas loin de 15 ans, on avait une semi-nuit de prière ici. On n'était pas très nombreux, mais j'avais été interpellé par ce texte. Et j'avais été visité par le Seigneur qui me disait, mais ces promesses, c'est pour toi, c'est pour ici, c'est pour cette église, c'est pour cette région. Et on avait proclamé ensemble dans cette semi-nuit de prière, c'était des soirées qui précédaient un peu d'autres soirées qui ont eu lieu après au Château Blanc, on avait proclamé ensemble ces promesses. Et je pense quelque temps après, j'ai dû parler de cela dimanche matin, mais je pense que peut-être les plus anciens parmi nous peut-être s'en souviennent, mais vraiment j'ai senti ici pour ce mois de janvier que Dieu voulait nous visiter, nous revisiter par ses promesses d'Ésaïe 58. Alors, dans ma Bible, il y a un titre qui est le vrai jeûne. Mais moi, j'ai pris la liberté d'en donner un autre titre. Et je donne comme titre à ce chapitre et donc à ce message la récompense à l'amour vrai. La récompense à l'amour vrai. Dieu, quelqu'un qui nous récompense. Vous le croyez? Et on va considérer à travers ce chapitre ces magnifiques promesses qui nous sont réservées. Et on va vraiment se les approprier. Toute la semaine, j'ai prié pour ça. Seigneur, que je m'approprie ces promesses. Seigneur, je veux les m'en approprier. J'ai prié pour que chacun et chacune, ce matin, on s'approprie ces promesses. Et combien je trouve dans ce texte des raisons de persévérer dans ma foi, dans mon service auprès des frères, auprès des incroyants. C'est bon de se rappeler les promesses quand on traverse des temps difficiles, alors qu'on entend peut-être l'ennemi qui nous souffle. Oh, tu sais, à quoi bon tu dépenses toute cette énergie-là? Est-ce que ça fait vraiment la différence? Et ça rejoint un peu la parole qui nous a été donnée par Robert, qui était vraiment importante ce matin. Dieu veut que tu apprennes à recevoir et à cueillir ces belles petites choses qu'il te donne. Il veut te confier des plus grandes. On va entendre ces plus grandes que le Seigneur veut te confier. Et je voudrais vous donner un puissant encouragement à ne pas douter, à ne jamais douter de l'impact d'un style de vie fondé sur l'amour qui a sa source en Dieu. Mais encore faut-il comprendre ce que c'est que cet amour vrai. Donc on va lire à partir du verset 6 et nous irons jusqu'à la fin du chapitre. Mais je vous dis juste quelques mots sur les quelques versets qu'on va lire, les quelques versets qui précèdent. D'accord ? Là, on voit un Dieu un peu en colère qui met en garde son peuple contre une fausse spiritualité. Ça nous guette tous, hein, attention. Qui fait que les efforts de prière peuvent être vains. Les paroles de Dieu, là, dans les quelques versets qui précèdent, sont sévères parce que ce qui l'irrite, là, c'est qu'il y a une distorsion entre la prière de son peuple et sa vie, son comportement, son attitude. Il y a une piété apparente, là. Mais en ce qu'il y a un service religieux régulier, tous les jours il me cherche. Il y a aussi le jeûne, mais par ailleurs, il y a une effusion de querelles, de disputes, un esprit de colère qui se manifeste par des menaces, taper du poing. Il y a une dureté de cœur qui se traduit par un traitement sévère envers certains, envers des mercenaires. Il y a, on le lit entre les lignes, une absence totale de compassion. Voilà, ça c'est ce qui est reproché à son peuple. Il y a un laisser-aller même dans la conduite morale. Pas de maîtrise de soi. Chacun se livre à ses mauvais penchants. Ceci le jour même du jeûne. Aucune place pour se remettre en question dans sa conduite, pour s'humilier. Et donc toute la démarche extérieure de ce peuple qui se couche sur le sac, sur la cendre, qui se courbe comme le jonc, n'est absolument pas en accord avec l'attitude intérieure. Ah, qu'il en soit pas de même pour nous, bien sûr. Mais donc, je n'ai pas voulu lire ces versets, j'ai fait juste mention, je veux me concentrer sur ce qui est positif dans ce chapitre. Et alors donc, on va lire les versets 6 à 14, et on voit clairement deux thèmes dans les versets 6 à 14. Un, la description de cet amour vrai. On va voir la description de cet amour vrai. Et deux, on va voir toutes les promesses qui lui sont liées. La récompense. Et ces deux thèmes, vous allez le voir, sont tour à tour mélangés. C'est-à-dire que tour à tour, on passe d'une ou plusieurs caractéristiques de cet amour à une ou plusieurs promesses. C'est imbriqué, c'est mélangé. Alors nous, on va les regrouper. Et on va les proclamer ensemble, les uns aux autres, tout à l'heure. Alors, je lis les versets 6 à 14. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison, on a parlé de guérison, germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu pardonnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas tes penchants à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Waouh, que de promesses. 15 promesses. 15 promesses. Récompense à l'amour vrai. Waouh. Alors le temps me manque pour faire un long commentaire, hein, vous pensez bien. Je souligne, dans cette première partie de description de l'amour vrai, pour moi, trois attitudes caractéristiques de cet amour vrai. On pourrait dire de la vraie spiritualité. Combien, moi ça m'attriste, combien de gens ont parfois une idée des croyants qui sont des gens austères et en fait qui ont une mauvaise image de la spiritualité. Bon, c'est vrai qu'il y a de mauvais exemples partout, hein. Mais combien je soupire à ce que Dieu les éclaire pour leur montrer l'image de la vraie spiritualité. Alors, trois attitudes qui se résument bien sûr en un mot, l'amour. Un, le profond respect de l'autre. Le profond respect de l'autre. Deux, la compassion pour celui qui souffre. La compassion pour celui qui souffre. Trois, je résume comme ça, le souci permanent de plaire à Dieu. Le souci permanent de plaire à Dieu et d'être conduit par l'Esprit en quelque sorte, hein. Moi je vois ces trois choses dans tout ce qui est décrit. Alors la première caractéristique, le profond respect de l'autre. Il faut briser des liens de servitude. Il faut détacher des chaînes de méchanceté. Il faut renvoyer libre des opprimés. Il faut arrêter des gestes menaçants et des discours injurieux. Et il y a une insistance, sur le mot joug. Le joug, c'est une allusion à ce qui était au cou du bœuf, hein. Ça symbolise le fardeau et aussi la sujétion, hein. Il faut rompre toute espèce de joug. Toute espèce, ça laisse entendre que le joug peut prendre bien des formes, différentes formes. Dieu veut que son peuple cesse toute attitude qui entrave la liberté et l'épanouissement de l'autre. Alors on va essayer d'énumérer comme ça très rapidement une liste de ces espèces de joug. On ne peut pas s'arrêter longuement, on n'a pas le temps parce qu'on veut se concentrer après sur les promesses. Mais l'attitude dominatrice ou l'autoritarisme qui est éloigné de la véritable autorité. Hein. La manipulation, bien sûr. Les menaces, le chantage, le harcèlement. L'absence de pardon est une forme de joug aussi que je fais peser sur l'autre. Le ressentiment, le jugement, bien sûr, la condamnation. Nous devrions toujours distinguer le pécheur du péché, hein, l'acte de la personne. toujours. La parole de malédiction qu'on peut s'adresser à soi-même, je suis nul, ou qu'on peut adresser à l'autre, tu es un bon à rien, tu n'y arriveras pas. Je dis souvent à ma femme que dans mes rêves, souvent je rêve que j'échoue. Ça, c'est l'ennemi. Je rêve dans mes rêves, j'échoue. Je cherche ma voiture, je ne sais plus où je l'ai garée, plus moyen de la trouver. Voilà. Mais bon, ça, c'est l'ennemi, c'est l'accusateur des frères. D'accord. Et ça, il faut pratiquer ce que Robert nous a enseigné, demander la lumière, et la lumière va triompher des ténèbres. Il faut maîtriser sa langue, bien sûr. La dureté du cœur, l'irritation, bien sûr, la parole dite avec colère. L'indifférence et le mépris sont des formes de joug aussi. L'absence de reconnaissance, de merci. Le repli, la bouderie. Et bien sûr, les dépendances, que ce soit l'alcool, la drogue, etc., dont je suis esclave, qui entravent ma liberté et font souffrir ceux qui m'entourent. Dieu est attentif à tout cela. Vous connaissez tous ce passage, la parole du Christ qui dit « Si tu vas présenter ton offrande, mais que tu te souviennes que ton frère t'en veut, laisse ton offrande et va trouver ton frère et va te réconcilier avec lui. » Première caractéristique, le profond respect. Je vous invite à méditer ça. Profond respect de l'autre. Deuxième caractéristique, la compassion pour celui qui souffre. Ça fait partie de l'amour vrai. L'amour qui nous vient de Jésus, bien sûr. Il est parlé de partager son pain avec l'affamé, de prendre soin du malheureux sans asile, de couvrir celui qui est nu, de rassasier l'âme indigente. L'indigent, c'est celui qui est affligé, accablé, maltraité. Comment appliquer cela aujourd'hui? Je ne peux pas m'étendre encore une fois très longuement, mais je voudrais citer quelque chose simplement. Vivre un vrai partage au sein de notre communauté. Il y a des choses toutes simples. Nous avons tous parfois des choses en trop. Partageons-les. Vivre un vrai partage. Avoir une maison ouverte, bien sûr, avoir une maison ouverte. L'hospitalité, on peut tous exercer ponctuellement l'hospitalité. Bien sûr, certains peuvent avoir un appel particulier pour accueillir des personnes à long terme. Mais, combien c'est important, des maisons ouvertes. Venir en aide à celui qui lutte contre une addiction. On peut lui venir en aide. Il y a le souci des pauvres, bien sûr, dans ma cité comme au loin. Alors même si on ne peut pas porter toute la misère du monde, mais on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de discerner ma part. Quelle est ma part? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire. On peut aider un voisin en difficulté qu'on a repéré. On l'a repéré dans notre rue, dans notre quartier. Il y a un voisin qui est vraiment en grande difficulté. Ou une personne de notre commune. On peut aider, et ça c'est dans l'actualité, hein. Un réfugié à s'intégrer. Il y a la région ici accueille des réfugiés. Je sais que vous le faites beaucoup là ici la vague, mais c'est vraiment important. Aider un réfugié qui a fui à cause de vraiment la persécution et qui était accueilli, qui a vraiment la carte de séjour et tout, mais l'aider à s'intégrer. On peut parrainer un enfant. C'est tout bête. On peut parrainer un enfant. Vous savez qu'on a un organisme ici, le SEL, Service Entraide Liaison, qui est protestant et qui est très sérieux. Là, on sait où va l'argent. Je sais que parmi vous, certains accueillent même des enfants. Je pense à... Comment il s'appelle ? Maxime, que vous accueillez, Rémi et Sabine, chaque été. Tout ça, ça fait partie de l'amour vrai. Une fois, je vous parlerai peut-être du SEL, du parrainage, pour une somme modique. Allez, on va dire... Je ne sais pas, moi, à peine 30 euros par mois, 28, eh bien là-bas, là où il est, l'enfant, ça paye toute sa scolarité. Et même un repas par jour. On peut faire cela. Hein? Et on peut prier, bien sûr, pour lui. On peut faire du soutien scolaire à un enfant en difficulté. Il y a aussi ce don de libéralité, bien sûr, pour les ministères que Dieu suscite. L'œuvre parmi les plus pauvres aussi. Comment ne pas penser, faire une toute petite allusion quand même à la détresse des migrants, hein, qui fruit l'oppression des pays. On peut soutenir des chrétiens. Parmi eux, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il y a parmi eux des chrétiens qui fuient la persécution. Alors on le fait chaque année, au mois de novembre, et ça on va continuer, hein, Dieu voulant. Voilà, bien sûr, tous ces actes, pas pour se montrer, pas pour se prouver quelque chose ou prouver quelque chose à quelqu'un, mais par pure compassion. Par pure compassion. Ce que tu fais à l'un de ces plus petits, c'est à moi que tu le fais, a dit le Christ. La religion sans tâche est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, est-il dit aussi dans Jacques. L'homme spirituel aime profondément Dieu et profondément celui qui a été fait à son image. Il aime sa ville, il aime sa région, il aime sa nation. C'est très très important. Nous rendons un mauvais témoignage en tant que chrétiens si nos paroles ou nos gestes ne traduisent pas un amour pour notre région, notre nation. Alors la troisième caractéristique, c'est le souci de plaire à Dieu, de ne faire que sa volonté. Il est parlé de l'honorer en ne suivant pas ses propres voies. Pour moi, ça me parle d'un esprit de consécration, d'un désir d'être conduit par l'Esprit pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il est parlé de sanctifier l'Éternel en le glorifiant, la pureté du cœur, la pureté de nos motivations, le souci de marcher dans la sainteté. Et cette attitude-là nous amènera souvent à demander pardon pour des paroles légères ou vaines que nous aurions prononcées. On est empressé de demander pardon parce qu'on sait que ça favorise la vie de l'Esprit en nous. J'étais surpris ces derniers temps, mais le Saint-Esprit m'a poussé à demander pardon pour un manque de loyauté que j'avais eu vis-à-vis de quelqu'un il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Mais c'était toujours là, plusieurs fois ça m'est revenu. Cette personne, elle est loin, mais j'avais son adresse mail. Et poussé par le Saint-Esprit, j'étais pas bien, il fallait que je demande pardon pour ce manque de loyauté. J'avais eu un manque de loyauté, il fallait que je le fasse. On est pressé quelquefois par l'Esprit-Saint. On est appelé à cette vie de Saint-Esprit. On veut que rien ne fasse obstacle à ce que cette vie du Saint-Esprit, elle coule. Cet amour agapé. On voit une croix avec deux poutres, je l'ai toujours dit, les deux poutres rappellent les deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même. Rappelez-vous la question de Jésus à Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu? Alors vous savez que c'est le mot agapé qui est le mot plus fort, c'est là-bas, très haut, hein, plus fort que le mot philéo. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il lui dit, même si Pierre y confesse que il fait ce qu'il peut. Hein, ouais. Mais Jésus lui dit quand même, lui fait confiance, et lui dit, paix mes agneaux, paix mes agneaux. Donc montre ton amour, montre l'amour que tu as pour moi en prenant soin des autres. Montre l'amour que tu as pour moi en prenant soin des autres. Ça, c'est une conversation qui est utile à garder. Le Seigneur a donné sa vie pour que nous aimions de cet amour agapé. Toute notre vie, le Seigneur nous forme pour vivre, qu'on vive cet amour agapé. On va traverser toutes sortes de situations, des offenses, on ne va pas passer à côté. Si vous pensez passer une vie sans offense, non, on ne passe pas à côté. Des humiliations, des déserts, mais l'amour agapé n'échoue jamais. Il porte toujours du fruit. L'amour agapé n'échoue jamais. Il porte toujours du fruit. Et cela nous ramène à Ésaïe 58. Et l'amour dont il est parlé dans Ésaïe 58, je suis sûr que c'est cet amour qui coule de Jésus. Cet amour qui coule de la croix. Qui nous vient de Dieu, qui est le fruit de l'Esprit Saint, qui a été manifesté pleinement en Jésus. Alors on va... Vous inquiétez pas, il y a 15 promesses, donc vous inquiétez pas, on va passer quelques secondes par promesse. Hein, on va pas, sinon on sera là encore, hein, midi un quart. Hein. Mais je vais dire, voilà, c'est 15 promesses, mais vraiment, si vous pouvez vous les approprier, la récompense à cet amour. Est-ce que vous êtes d'accord pour vivre cet amour tel qu'il était écrit là? Ouais, amen. L'amour agapé, profond respect de l'autre, compassion pour celui qui souffre, le souci de plaire à Dieu constamment. Alors, dans les versets 8 et 9, il y en a déjà 5. Peut-être tu peux les afficher maintenant. Non, affiche-les pas maintenant. Ça va. Oui, non. On va les afficher après. Hein. La première, ta lumière poindra comme l'aurore. Donc, j'ai, de temps en temps, je vais dire la version en français courant. Et j'ai aussi, à l'époque, il y a plus de 10 ans, j'avais cherché dans ma Bible online aussi le sens original des mots en hébreu ou en hébreu. Hein. Francis Courant, ça veut dire « ce sera l'aube d'un jour nouveau ». Cela, ça parle, évoque l'idée de percer, de conquête, de se faire un passage, une brèche. Comme l'aurore, chaque matin, finit par percer les ténèbres. Voilà, vous rendez compte la promesse ? Ta lumière poindra comme l'aurore. Deuxième promesse. Ta guérison germera promptement. Français courant, ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. C'est la promesse de vivre la restauration, le rétablissement, la réparation des dégâts, des blessures, celles du passé, celles du présent, celles du futur. J'en aurai encore, peut-être, des blessures. Ah, quelle promesse! Ah, ta guérison germera promptement. Troisième promesse, ta justice marchera devant toi. Français courant, le salut te précédera. Ça veut dire que tu auras la faveur de Dieu et des hommes. Tes actes de justice, qui sont ces actes d'amour agapé, vont interpeller les autres. On va dire, celui-là, il est approuvé de Dieu, celui-là, il est protégé. Je me souviens d'une collègue de travail quand je travaillais. Oh, ben toi, tu es protégé. Hein. Bon, elle avait perçu quelque chose dans ma vie avec Dieu, voilà. Pourtant, j'étais bien imparfait. Hein. Quatrième promesse, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La glorieuse présence de Dieu t'accompagnera. Ça parle d'un rayonnement. Tu seras lumineux, tu seras beau comme Moïse, comme Joseph, comme Étienne. Oui, ton visage va briller. Et ça évoque aussi l'idée d'assembler, de rassembler. Il y a comme l'attraction, une attraction. Cinquième promesse qu'il n'y a pas besoin de commenter, Dieu répondra à tes appels, à tes cris. C'est la démonstration de la faveur de Dieu. Dieu est empressé de répondre à ton cri. Dieu éprouve tellement de plaisir en toi, il est empressé de répondre à ton cri. Sixième promesse qu'on trouve plutôt à la fin du verset 10 et dans les versets 11 et 12. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. En français courant, au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Cela veut dire tu verras clair. Tu auras du discernement. Ne pensons jamais grandir dans le discernement sans l'amour vrai. Cela veut dire aussi que tu retrouveras la sérénité. Ton visage va refléter cette sérénité. Septième promesse. Voyez, on avance. Hein. On va vite arriver à 15. Vous inquiétez pas. Mais après, on va se les proclamer les uns aux autres. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu ne seras pas comme sans boussole. Est-ce que vous vous dites quelquefois, je vois plus clair, je sais plus, tu ne seras pas sans boussole. Tu grandiras dans cette assurance d'être bien conduit. De ne pas connaître l'abandon. Tu ne craindras pas les mauvaises nouvelles. C'est bien ça. C'est bien. Tu ne craindras pas les mauvaises nouvelles parce que toutes choses vont concourir à ton bien, même les difficiles. Toutes choses vont concourir à ton bien. Huitième promesse, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, dans les déserts. Il rassasiera ton âme. Même en plein désert, dit le français courant, il te rendra des forces. Quelle promesse! Sans que tu aies besoin d'évangéliser, les gens seront étonnés. Tu seras un sujet d'étonnement par ta paix et la sérénité que tu pourras dégager, même dans l'épreuve. Ah, celui-là, celle-là, il y a quelque chose. Et il est parlé là aussi de nourriture spirituelle abondante, en excès, à satiété, dont Dieu nous délectera dans des endroits secs. C'est vraiment là la Bible online, hein, je vous cite. Neuvième promesse, il redonnera de la vigueur à tes membres. Ça veut dire que tu seras équipé. Tes forces vont être renouvelées et tu seras équipé pour résister. Vous connaissez la chanson « Résiste », hein, avec notre regretté France Gall, voilà. Eh bien, avec le Seigneur, nous aurons la force de résister à l'ennemi. Dixième, c'est ma préférée. Je l'ai sur ma table de nuit. Une fois, j'avais été à un repas Gédéon, là, tu y allais, je pense. Et puis, c'était le verset qui nous était donné. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. En français courant, tu feras plaisir à voir comme un jardin arrosé. Waouh. Il y a à la fois la notion d'endroit sûr, protégé, comme un jardin, et la notion aussi d'ivresse. Dieu m'a parlé il y a 10 ans quand j'ai eu ce verset, et j'aimerais redire ce que le Seigneur m'a dit, j'ai l'impression que c'est toujours d'actualité. Je vous invite à fermer les yeux un petit instant. Fermez les yeux. Fermez les yeux, imaginez que si vous avez un jardin, c'est facile. Si vous n'avez pas de jardin, pensez à un jardin que vous avez visité. Un beau jardin. Le matin de bonheur. Peut-être vous avez pris votre petit déjeuner dans une chambre haute et puis vous êtes sorti, vous avez vu les fleurs. Regardez ce jardin. Pensez à ce jardin. Regardez cette fraîcheur, cette beauté. Pensez au rayon de soleil qui éclaire les premières fleurs, le parfum délicieux qui se dégage de ces fleurs. Et la rosée conjuguée au rayon de soleil donne un aspect brillant au jardin. Pensez à ce jardin. Vous vous réjouissez de sa beauté en le contemplant, en voyant ces petites mésanges, ce petit rouge-gorge. Et le Seigneur nous dit, et le Seigneur te dit, tu as appelé mon enfant à être comme ce jardin. Au milieu de l'aridité ambiante, je veux que tu dégages cette fraîcheur et cette beauté comme un jardin arrosé au printemps. Je te forme pour cela. Persévère dans cet amour agapé qui est le fruit de mon esprit. Sois pas trop pressé. Te fie pas à l'apparence d'un manque de résultats. Mon esprit est à l'œuvre. Je suis en train de faire de toi un canal de bénédiction. Regarde les premiers bourgeons. Sens les premières bonnes odeurs. Ne doute plus. Cet amour agapé, c'est ma vie qui coule et qui se développe en toi. Poursuis ta route dans la foi en mon œuvre. En toi. Et je dis, on priait là à 2 ou 3, et d'un seul coup, on ressentait que le Seigneur voulait que cet endroit soit comme un jardin arrosé. Et on a eu la démonstration vendredi. Vendredi, on a eu la démonstration, on a l'impression que c'était un jardin arrosé, qu'il y avait une présence de Dieu. Les chants, c'était pas lourd. Pourtant, il y avait quand même la liturgie, mais c'était pas lourd. Rien n'était lourd dans cette soirée. la vocation de ce lieu, de nos maisons aussi, c'est d'être comme un jardin arrosé. La vocation de nos vies, c'est d'être comme un jardin arrosé. Alors j'en arrive aux dernières, mais elles ne sont pas des moindres. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. Français courant, tu relèveras les anciennes ruines, tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Ça parle du témoignage de nos pères, de nos mères, et notre région et notre nation ne manque pas de témoins martyrs qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang ici sur cette terre. Et Dieu nous dit, vous allez continuer ce travail. Vous allez continuer ce travail. Et vous allez entraîner d'autres à le faire. Peut-être vos enfants, peut-être des tout proches, des frères et sœurs tout proches. Vous allez entraîner d'autres à le faire, à poursuivre ce travail. Quelle magnifique promesse. On t'appellera réparateur de brèches, 12e promesse. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Français courant, le peuple qui répare les brèches des murailles, redonne vie aux ruelles de la ville. Cette parole est en rapport avec la réparation des murs. Des murailles, ça veut dire que ton action va contribuer à élever des murs de protection contre l'envahisseur, qui est l'ennemi de nos âmes, celui qui veut amener la corruption. Ton action va contribuer à changer l'atmosphère, à être un thermostat et non pas un thermomètre. À être un thermostat et non pas un thermomètre. Et à édifier des personnes, des familles stables, des structures stables. Amen. Pouh, quelle promesse, moi ça me dépasse ça. Moi je ne sais pas si ça vous dépasse, moi ça me dépasse. C'est incroyable. Rendez compte, la promesse, la récompense à l'amour vrai. Ah. Et enfin, donc les trois dernières. 13, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Français courant, je deviendrai la source de ta joie. Tu feras du Seigneur tes délices. Tu apprendras vraiment à te réjouir en lui. Tu seras de plus en plus amoureux de lui, passionné. 14e, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je t'emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets. Ça, c'est français courant. Je crois que ça parle de la sécurité, mais ça peut faire allusion au fait d'être élevé à un moment, à honorer, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, là. 15e promesse, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Français courant, je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. On est tous de la lignée d'Abraham, donc de Jacob. Donc on hérite des promesses aussi, liées à cette lignée. Ça veut dire quelque part, tu grandiras en autorité et tu jouiras de la paix. Tu seras source de bénédiction pour beaucoup. Tu seras canal de bénédiction pour beaucoup. Amen. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Waouh. C'est pas des promesses de Jean-Luc, c'est pas des promesses d'un livre quelconque. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors on va terminer ce que je propose en se proclamant. Alors comment on va faire? Je vais essayer de vous guider. On va le faire ensemble. Donc, je me souviens quand on avait fait le jeûne et prière, on passait un à un. Alors là, un à un ici, on est là jusqu'à 4 heures. Hein, d'accord? Bon. Non, mais on va faire en deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, je vais demander à ici, ces deux rangées-là, d'enlever les deux chaises ici, les deux premières à chaque rangée ici. Ces deux-là. Les deux. D'accord? Pour faire une large allée ici au milieu. Pour faire une large allée au milieu. D'accord? Voilà, les deux, très bien. Ouais, Michel, il faut te lever. Ouais, Michel, tu dois te lever. Et on va enlever ces deux chaises-là. Voilà, ici. Donc, comme ça, il y a une large allée. D'accord? Voilà. Très bien. Parfait. Est-ce que... Oui, ben, je crois qu'on peut enlever là, là encore. On peut enlever là, voilà. Voilà, très bien, voilà, parfait. Très bien. On a une large allée. On va se diviser en deux groupes. dans mon cœur, ce que j'avais, c'est que les couples ne soient pas divisés. C'est-à-dire que vous soyez vraiment les couples ensemble. Hein. Par contre, le reste, on peut se mélanger. On n'est pas obligé d'avoir les Coréens d'un côté et les autres. On peut se mélanger. Hein. D'accord ? L'essentiel est, alors qu'il y a un groupe, comment dire, qu'on étoffe ce groupe-là ici. Alors, allez-y, étoffez. Bon, voilà. Tous ceux qui ne sont pas... Ah oui, mais alors... Oui. Alors, il faut des Coréens quand même, hein, par ici. Attention. Hein. Alors, et comptez combien vous êtes. Voilà. Comptez combien vous êtes. Voilà, là c'est bon, là je crois que vous êtes assez nombreux là, c'est bon. Là, ici reste, à mon avis, hein. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, comptez-vous ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est parfait. On va pas dissocier les enfants, j'ai dit à Sylviane, si quelqu'un peut aller les appeler, on va les associer aussi. D'accord, on va associer les... Sylviane et les enfants. Il n'y a pas de raison que... voilà. Alors ici, ce groupe-ci, vous allez faire une arche. Une arche comme ça. C'est-à-dire, vous vous mettez face à face. Oui, Annette, tu vas te mettre en face de moi. Voilà. Donc, l'arche ouverte par Pascal et Michel. Voilà, comme ça. Moi, je vais me mettre ici. Voilà, moi, je vais me mettre ici. Vous faites un arche. Voilà. Ok. Très bien. Les autres, vous commencez à vous mettre en file indienne, les mains sur les épaules de l'autre. Allez. Voilà. Alors. Ouais. Alors, alors, attention. Oui, d'accord. Ok. Très bien. Donc, j'explique. Voilà, allez-y, mettez-vous derrière. Attendez, hein. J'ai pas donné le signal encore, attendez. J'ai 2-3 explications à donner. Donc Sylviane et les enfants. C'est réveil d'amour de l'humanité. Oui. C'est vrai. Ah oui, on l'a fait. Ah ouais. D'accord. Non mais là on va le faire que 2 fois, ça va aller. Alors Sylviane et les enfants, c'est bon. J'aimerais donner 2 explications. Quand le Seigneur m'avait montré cette arche, il m'avait montré que pour passer sous l'arche, vous êtes obligé de vous baisser. Et ça, ça vraiment, ça symbolise. Ouais, vous êtes obligé de vous baisser. Ça parle vraiment du corps qui est d'accord de s'humilier. Ça parle de l'humilité. D'accord, écoutez-moi 2 secondes. Hein. Ça parle de l'humilité par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Vous êtes obligé de vous baisser, donc ça veut dire vraiment, vous êtes d'accord pour vivre cet amour vrai dans l'humilité par rapport aux autres, dans l'humilité par rapport à Dieu. Et l'arche, c'est la couverture de Dieu, c'est la couverture de Dieu, et qui passe par la couverture des frères et sœurs. Amen. Qui passe par la couverture des frères et sœurs. D'accord ? Voilà, ça nous parle dans ce sens. Voilà, alors, on va y aller, donc on va faire ceci, mais après on va changer les rôles, c'est-à-dire c'est vous, voilà, donc comme ça, alors nous, ici, ceux qui font l'arche vont proclamer ces paroles, il ne s'agit pas d'aller trop vite, il faut aller doucement, hein, d'accord, pas trop vite, et donc pendant que vous allez passer dessous, nous allons proclamer. Ces promesses sur vous sont des promesses pour vous. La bouche, nous sommes la bouche de l'Éternel pour dire ces magnifiques promesses sur vous. D'accord ? Et après, nous changerons les rôles. Voilà. Peut-être on peut le refaire l'année prochaine. Et je suis sûr qu'on le fera encore mieux. Fort de l'expérience de cette année, avec des petits couacs, on fera encore mieux l'année prochaine. Voilà. Ouais, le titre, voilà. Merci hein, d'avoir participé. Merci beaucoup. Saisissons, relisons ces promesses vraiment tout au long de la semaine. Saisissons-les. Approprions-nous-les. Voilà, je laisse la parole à Pascal.